Mangez vrai, parce que l'alimentation fait débat.
Bonjour à toutes et bonjour à tous en ce mois d'octobre. Bonjour Laura.
Bonjour Henri.
Oh là là, j'allais me taper sur les doigts, je vous avais oublié. Bonjour Laura.
Bonjour Henri.
En ce mois d'octobre, nous allons parler de fibres alimentaires qui sont donc très utiles pour notre santé et à de nombreux points de vue, Laura.
Oui, effectivement, parce que les fibres, elles régulent le transit, elles contribuent aussi à baisser l'index glycémie d'un aliment ou d'un repas, et donc régulent la glycémie. Elles engendrent aussi une meilleure satiété et donc une bonne gestion du poids. Et elles favorisent un bon microbiote parce qu'elles nourrissent nos bonnes bactéries intestinales en agissant en tant que prébiotiques.
Concrètement, qu'est-ce qu'on appelle les fibres alimentaires ?
Ce sont en fait des résidus non digestibles des aliments que nous mangeons. Donc elles font partie de la famille des glucides et elles se trouvent dans les végétaux. On a deux sortes de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Du coup, les fibres solubles, elles se trouvent plutôt dans la chair des fruits et légumes, comme la pectine dans la pomme, par exemple, et elles vont se dissoudre dans l'eau en formant un gel. Et les fibres insolubles, elles sont surtout dans la paroi des végétaux et elles absorbent l'eau. Et donc, c'est via ces deux mécanismes qu'elles régulent le transit, mais aussi d'une certaine manière la satiété.
Vous disiez qu'elle régulait la glycémie, c'est-à-dire ?
Oui, en fait, elle régule la glycémie parce qu'en freinant l'absorption du glucose, en fait, elles permettent d'abaisser la charge glycémique totale du repas. C'est d'ailleurs pour ça que les aliments complets ont un index glycémique plus bas que les aliments raffinés, puisque les fibres, en fait, sont essentiellement dans l'enveloppe du céréale. Et donc, c'est le cas, par exemple, du pain complet versus le pain blanc. Un complet aura un index glycémique plus bas. Et par ce biais-là, en fait, en régulant la glycémie, elles préviennent aussi de l'insulinorésistance et du diabète. Et donc, c'est hyper intéressant.
Je me souviens, on avait vu ensemble dans la chronique sur l'index glycémique, une glycémie plus stable permet une meilleure gestion du poids.
Oui, tout à fait. Bravo, Henri.
Hein?
Ah ouais, vous suivez bien tout, je suis fière de vous.
Je suis un très bon élève.
Oui. Bah oui, parce qu'en fait, une glycémie contrôlée n'engendre pas d'hypoglycémie réactionnelle qui, elle, va nous pousser à consommer peu de temps après le repas des produits sucrés pour pallier à un coup de barre que l'on peut ressentir. Et en plus, je disais aussi que les fibres agissent sur la satiété, en fait, parce que d'une part, il nous faut plus de temps pour les manger puisqu'il faut bien mâcher les fibres. D'où l'intérêt des crudités. Et comme elles vont former un gel ou bien absorber l'eau, en fait, elles auront un effet rassasiant parce qu'elles vont prendre un peu plus de place dans l'estomac. Et je parlais de la pectine tout à l'heure. Eh bien, elle permet aussi de diminuer l'assimilation des graisses, en fait, en emprisonnant les graisses lors d'un repas, notamment le cholestérol. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on associe le boudin noir à la compote de pommes.
Encore faut-il aimer hein, le boudin. Moi, je suis pas trop fan du boudin noir.
Ah, moi j'aime bien et puis c'est une très bonne source de fer. Donc pour les femmes surtout, c'est intéressant. Une fois par mois, par exemple, ça peut être à mettre au repas.
Et puis vous allez chez votre charcutier chercher votre boudin noir. Hein. Il faut que ça soit un artisan qui vous le fasse.
Oui, surtout. C'est important. Et idéalement bio, un cochon bon. Qui, on sait ce qu'il a mangé, puisque dans le sang, tout passe. Donc, c'est mieux.
Ça serait
bio.
Le top du top. Oui. C'est un boudin noir de notre artisan et
bio.
Voilà. Alors là, vous avez tout gagné. Avant de continuer, on va se faire une pause musicale. On va écouter l'ami Mika. Elle me dit.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
Une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et tant, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu vis
Mangez Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
C'était Mika sur Mangez Vrai. Elle m'a dit, ce matin, nous sommes avec Laura, et puis la teneur de cette chronique, ce matin, on parle de fibres. Pouvez-vous nous expliquer le principe ?
Alors, en fait, les fibres, ce sont des polysaccharides, donc des sucres, qui ne sont pas digérés par l'organisme. Elles vont donc se retrouver intactes dans le côlon, là où les bactéries sont le plus nombreuses. Donc, les bonnes bactéries intestinales, elles se nourrissent de ces fibres et elles sont capables de les digérer. Donc, la présence de fibres, en fait, contribue à l'entretien d'un bon microbiote en agissant en tant que prébiotique, parce que les bonnes bactéries vont se développer au détriment des mauvaises qui, elles, se nourrissent de sucre simple, donc d'aliments sucrés, raffinés, industriels, à index glycémique élevé.
Alors moi, j'ai une question qui me vient immédiatement à l'esprit. Comment fait-on pour consommer la bonne quantité de fibres ?
Alors, c'est assez compliqué à savoir. En fait, des études montrent quand même qu'il faudrait consommer entre 25 à 30 grammes de fibres par jour pour un adulte pour bénéficier de leurs bienfaits, justement. Après, c'est pas vraiment possible, ou alors ce serait trop fastidieux de le calculer, mais en fait, le mieux, c'est de se tourner vers une alimentation très végétale, puisque c'est là qu'elle se trouve. Donc, on en revient à nos 5 fruits et légumes par jour minimum. Enfin, alors plutôt 2 fruits et 3 à 4 légumes, comme j'avais expliqué lors de ma chronique sur l'importance des fruits et légumes. Et puis, à consommer bio. Et comme ça, on peut consommer la peau pour avoir encore plus de fibres. Et on remet les légumineuses au goût du jour. On mange des oléagineux, on mange des graines. Et pour les céréales et les farines, eh bien, on les choisit semi-complets, voire complets.
Il n'y a pas un problème à consommer trop de fibres ?
Alors, ça peut. Pour bien digérer les fibres, en fait, il faut un bon microbiote. On l'a vu tout à l'heure, les bonnes bactéries vont se nourrir des fibres et les digérer, alors que les mauvaises bactéries, elles vont se tourner vers les sucres simples. Donc, les fibres resteront intactes et elles vont fermenter dans le côlon, ce qui entraînera des maux de ventre. Donc de là, en fait, on peut avoir des dérangements chez certaines personnes. Donc si on a une alimentation pauvre en fibres, en fait, il faut les réintroduire progressivement et puis aussi bien s'hydrater. Parce qu'on a besoin de, comme j'ai dit, elles absorbent l'eau notamment, donc il faut penser à bien s'hydrater. Donc certaines personnes, effectivement, elles souffrent du syndrome de l'intestin irritable qui se traduit notamment par des maux de ventre, comme des crampes, des ballonnements ou encore on a des alternances diarrhée-constipation. Et donc alors les fibres ne seront pas les seules fautives, mais du coup, effectivement, en trop grande quantité, elles vont contribuer à amplifier ces problèmes. Et donc, lorsqu'on y est sensible, il faut veiller à ne pas trop manger de crudités parce que les fibres des légumes cuits, en fait, elles vont être plus douces et pas trop de légumineuses ni de céréales complètes. C'est surtout les fibres insolubles qui sont les plus irritantes pour l'intestin.
Eh bien, c'est tout un programme et je connais bien ça. Je fais partie de ces personnes-là. C'est vrai que trop de fibres me pose bien, oui, bien des problèmes. Le mieux pour être sûr de consommer assez de fibres est sûrement d'aller voir un professionnel en nutrition, comme pour vous, par exemple.
Oui, par exemple.
Vous allez voir Laura, elle vous dira tout. Qui accompagne de manière personnalisée les personnes dans leur rééquilibrage alimentaire. Et ça, c'est important à le souligner.
Oui, parce qu'en fait, surtout si on a des problèmes intestinaux, parce que dans ce cas, en fait, il faudra travailler sur la muqueuse intestinale pour faire en sorte que les fibres et les autres aliments soient mieux tolérés. Donc c'est vrai que, pas que pour les fibres, mais un rééquilibrage alimentaire peut aider à mieux se sentir et à avoir moins de désagréments au niveau digestif.
Alors justement, j'allais vous poser la question, quel genre de travail, comme vous dites, travailler la muqueuse intestinale, ça consiste en quoi ?
Souvent, ça va passer par des compléments alimentaires, en tout cas pour réparer la muqueuse, notamment via une protéine qui s'appelle la L-glutamine. Mais d'abord, il faut nettoyer, il faut d'abord faire le ménage bien nettoyé pour pouvoir ensuite réparer et idéalement après réensemencer avec des bonnes bactéries, ça peut être par des probiotiques naturels ou en complément alimentaire.
Voilà, et puis si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas, vous avez un petit onglet, posez les questions à Laura. Et puis on va vous parler la semaine prochaine d'une grande opération que nous lançons, puisque à partir d'avril 2022 jusqu'à décembre 2022, sur 20 dates, nous partons chez vous, vous parler d'un phénomène, de quelque chose qui nous interpelle, Laura, l'obésité.
Oui. Effectivement, hashtag obésité, nos fatalités.
Fatalité, voilà. Et donc, on vous en parlera parce qu'avec la pandémie, ceux qui étaient en surpoids ont basculé malheureusement dans l'obésité, grosse partie. Et donc, il était nécessaire qu'on attire votre attention à mieux manger, à manger vrai, à mieux consommer. Merci Laura.
Merci Henri.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
Lutter contre le cancer du sein, ça commence par des gestes au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool.
Pour moi, un verre d'eau pétillante.
Avoir une activité physique.
Pas d'ascenseur, je prends l'escalier.
Manger équilibré et varié.
Bye bye les frites, vive les petits pois.
Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue.
Allô, y a de la place pour une mammo?
Contre le cancer du sein, la prévention, c'est tous les jours. Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les 2 ans.
Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin. Une campagne de l'Institut National du Cancer.